L'occasion de la 18e édition des rendez-vous au jardin qui ont lieu en Occitanie comme partout en France, Diane Masclary se propose de nous guider dans cette déambulation dans le parc du château de Longage-Comminges. Bonjour Diane Masclary.
Bonjour.
Un grand merci d'être avec nous ce matin en studio. Alors vous êtes, selon votre propre définition, une passeuse de passion et d'histoire. Et votre passion à vous, ce sont les pigeonniers.
Effectivement.
Pas banal, pas banal. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces pigeonniers?
Mais écoutez, j'y ai mis, je pense, le doigt et maintenant j'y ai le bras, j'ai presque tout le corps.
Et oui, c'est vrai.
C'est une passion qui s'est construite au fil du temps. Je pense que c'est mon père qui m'a un peu initiée, alors pas aux pigeonniers, mais à la noblesse des matériaux et au travail de l'homme. Parce que dans un pigeonnier, on va trouver...
Il était maçon, votre papa. Hein.
Mon père était maçon, il a 91 ans aujourd'hui. Il est toujours très attiré par tout ce qui est le patrimoine. Et toute petite, il me disait, regarde ce mur, comme il est bien fait, regarde ce bois, la noblesse de sa structure. Et effectivement, j'ai trouvé dans le pigeonnier le symbole, ou peut-être la représentation de tout le travail de l'homme, le travail manuel, puisqu'on va retrouver le maçon, on va retrouver le vannier, on va retrouver le potier, le charpentier. Et donc ce travail est aussi le symbole de l'histoire de la France, de la France et de nos terroirs.
Et puis c'est ça, les terroirs effectivement est très présent, c'est le beau au coin de la rue, au coin du champ en fait, hein, la beauté au coin du champ, partout.
Au coin du champ, au détour d'une rue, puisqu'on va pouvoir en découvrir en se promenant dans les rues de Toulouse, dans les villages, au détour des fois d'un lotissement, parce que le pigeonnier a été sauvegardé, rénové. Donc il suffit d'ouvrir les yeux. Et ça me fait penser à une phrase de Marcel Proust qui disait que le véritable voyage de découverte, ce n'est pas d'aller loin et de faire de grands voyages, mais c'est d'ouvrir les yeux.
Ouvrir les yeux, ben ça c'est une belle définition. C'est la richesse du pauvre un petit peu, vous me disiez en préparant cet entretien, le pigeonnier, parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir en voir, c'est ça hein.
Alors le pigeonnier pour moi c'est un paradoxe, puisque avant 1789, donc avant la nuit du 4 août et de l'abolition des privilèges, seuls notamment dans le nord de la France, les seigneurs hauts justiciers, qui avaient donc le pouvoir de justice, pouvaient construire des pigeonniers. La loi était plus souple dans le sud, puisqu'il suffisait d'avoir un certain nombre d'arpents de terre nécessaires pour nourrir les pigeons. Et ensuite, donc après la nuit du 4 août,
l'abolition des privilèges.
L'abolition des privilèges. La construction des pigeonniers s'est démocratisée et tout le monde pouvait en avoir. Et avant 1789, les pauvres ne pouvaient pas en construire, mais ils détournaient la loi en mettant des pigeons dans leur grenier et ils rentraient par un simple volet. Donc pour moi, c'est un paradoxe avant 1789 et après. Et pour revenir à l'art du pauvre, pour moi, le pigeonnier va dans ce qu'on appelle le petit patrimoine ou le patrimoine populaire, sans que ce soit péjoratif.
Bien sûr.
Au même titre que les puits, les lavoirs, les fontaines. Et pour moi, c'est la base de notre histoire, de notre patrimoine, ce sont nos racines, c'est notre vie au quotidien. Et notamment un brocanteur que j'ai rencontré au mois de février au Puy-en-Velay, puisque je parcours les brocantes, les vides-greniers pour trouver des éléments de pigeonniers, qui disait que l'art populaire, c'est la richesse du pauvre.
Vous savez, vous nous avez donné envie de vous suivre, Diane Masclary. On va aller au jardin avec vous. C'est du 4 au 6 juin. Qu'est-ce que vous nous proposez concrètement ce week-end?
Bien, je vous propose, avec la complicité du propriétaire du château Longage-Comminges, Déodat du Riescoste, de vous amener à la découverte des pigeonniers. Donc nous allons rentrer dans le pigeonnier. Au départ, dans l'entrée du château, dès la grille, vous allez être mis en condition et vous allez trouver des briques, de l'ardoise, du bois, et même une petite jardinière avec une maison avec un pigeonnier pied de mulet intégré. Et petit à petit, au fur et à mesure de votre déambulation dans le parc, vous allez découvrir des épis de faîtage, des charpentes, des échelles, sous forme de photos, hein, je précise. Mmh. Et au fur et à mesure de votre avancée dans le parc, vous allez pouvoir découvrir les divers types de pigeonniers, puisqu'il y a les pigeonniers circulaires, les pigeonniers quadrangulaires, les pigeonniers attenants, les pigeonniers intégrés, les pigeonniers pariétaux. Voilà toute une sorte de toute une variété de types de pigeonniers. Et au fur et à mesure, donc, vous allez voir cette diversité de styles, puisque le pigeonnier est lié à l'originalité de son propriétaire, aux moyens financiers aussi de son propriétaire pour le construire, et avec les matériaux locaux. Donc dans le Gard, on va trouver beaucoup de pierres, dans l'Ardèche, chez nous on va trouver plus de briques ou de tuiles. Et au fur et à mesure, donc, on va rentrer dans cette diversité du pigeonnier pour découvrir aussi les pigeonniers hors du département, en France. Et au fur et à mesure, on va voir comment ces pigeonniers se transforment, puisque j'ai tendance à dire que ce sont des sentinelles du passé, mais avec un avenir prometteur.
Ah ah, suspense, on va voir quel est cet avenir du pigeonnier. Est-ce qu'on en verra en vrai, les pigeonniers? Est-ce qu'il y en a un dans ce parc?
Oui, le château Longage-Comminges a la chance d'avoir un colombier.
Alors, vous dites colombier ou pigeonnier, c'est quoi la différence?
Alors la différence, un colombier, c'est un édifice qui ne va accueillir que des pigeons, qui est dédié aux pigeons. Et le pigeonnier va associer à sa fonction donc d'accueil du pigeon une fonction utilitaire, puisqu'on va trouver dans certains une porcherie à la base, un poulailler ou un local de rangement du matériel agricole.
D'accord. Et alors, il servait à quoi? Vous parlez de sa fonction d'accueil des pigeons. Moi, j'imaginais que c'était que ça. Il servait à quoi ces pigeonniers autrefois, hein?
Alors, pourquoi élevait-on des pigeons? On élevait des pigeons en priorité pour la fiente, qu'on appelle aussi la colombine. C'était une grande richesse pour les propriétaires, puisque c'était l'engrais de l'époque. Et la fiente était très... économiquement
rentable,
très rentable, et même on a trouvé des traces dans les baux de métayage ou les dots des filles, aussi les contrats de mariage, où la dot des filles était transformée en kilos de fiente.
Ah,
c'est
non.
Vous dire la richesse. Alors j'avoue que c'est pas très glamour, mais voilà, la dot des filles se calculait en kilos de fiente, c'est vous dire la richesse, ouais, de la rentabilité de cet engrais qui servait pour dans notre région, notamment pour les cultures de pastel, pour la vigne. Alors c'était un engrais en plus très très riche, qu'il fallait très riche en termes de contenu, hein, qu'il fallait mélanger à de l'eau, parce qu'autrement il était tellement fort qu'il pouvait brûler les plantes.
D'accord, ah oui, donc bon engrais, mais à usage précautionneux.
Donc on élevait les pigeons pour la fiente, mais également pour la nourriture.
Pour les manger?
Pour les manger, avec le traditionnel pigeon au petit pois notamment, où le pigeon, c'est pas l'heure de manger, mais le pigeon au foie gras, ou dans d'autres régions ou dans d'autres pays, comme la pastilla au Maroc, qui est à base de pigeon.
Et alors jusqu'à 1789, hein, disiez-vous tout à l'heure, c'était tout de même quelque chose réservé aux aristocrates, hein, c'est ça?
Effectivement.
Hein. Seuls les aristocrates avaient ce pigeonnier et le droit d'avoir cette fiente nécessaire aux cultures.
Exactement.
Et alors, moi, naïvement, je pensais pigeon, je pensais pigeon voyageur. C'est pas du tout, les pigeonniers n'étaient pas du tout la maison des pigeons voyageurs.
Alors, les pigeons voyageurs.
Le relais de poste des pigeons voyageurs, non?
Alors, effectivement, le pigeon était élevé aussi pour ses capacités de transmission. Mais là, c'est un autre élevage, une autre catégorie. Et malheureusement, je n'ai pas suffisamment de compétences pour vous en parler. Par contre, j'ai travaillé sur ce sujet aussi, puisque notamment durant la guerre de 14-18, les pigeons voyageurs ont été très utilisés, et il y a des colombiers militaires, notamment dans les zones sur le front de guerre, hein, notamment à Verdun. Et un pigeon très célèbre, c'est le Vaillant, qui a permis de prévenir de la chute du fort de Verdun.
Pour l'anecdote. Alors le château où vous nous proposez de venir nous promener ce week-end, Diane Masclary, ce week-end, je le rappelle à ceux qui nous rejoindraient, hein, c'est la 18e édition des rendez-vous au jardin. Vous nous proposez une balade, une déambulation dans le château de Longage-Comminges. Alors moi, naïvement, de la même manière encore, hein, je pensais pigeonnier, je pensais Quercy. En réalité, des pigeonniers, vous l'avez dit, il y en a un peu partout, chaque région a son son pigeonnier avec sa spécificité?
Il y a des pigeonniers dans toute la France, effectivement. Chacun, en fonction de sa région, va avoir des spécificités liées aux matériaux, liées aussi, notamment en Normandie, ils vont être beaucoup plus vastes, beaucoup plus, plus circulaires que quadrangulaires. Mais dans notre région, nous en avons. À titre d'exemple, ma commune qui est Pain-Justarène, nous en avons 9. La commune à côté, Villatte, 7. Il y en a partout. Par contre, ils se cachent. Parfois, ils se cachent. Il faut aller les chercher.
Ils se cachent et pourtant, c'était à l'époque un signe extérieur de richesse, hein, on a bien compris.
Oui, effectivement, c'était un symbole de richesse et de...
Et de vie réussie. Alors vous avez, lors de l'exposition, vous nous disiez, on va pouvoir déambuler, rencontrer la diversité, voir la diversité architecturale de ces pigeonniers en fonction de leur histoire et de leur région. Il y a les épis de faîtage aussi que vous allez nous présenter. Qu'est-ce que c'est un épi de faîtage?
Alors un épi de faîtage, c'est un élément qui se trouve à la jonction de la toiture, des quatre pans notamment, qui avait un rôle de consolidation pour éviter que l'eau rentre dans le pigeonnier, mais également qui servait d'attrait pour le pigeon pour qu'il puisse revenir à son pigeonnier. Mmh. Voilà. Et également, alors ça c'est le côté symbolique, la prospérité du pigeonnier, puisque c'est en forme de phallus et qui donne le symbole de la prospérité du pigeonnier.
Ben ça alors.
Voilà, ce côté symbolique qui s'y rajoute.
Eh ben voilà, comprennent qui pourra. Alors, vous nous parlez de ces figures, ces sentinelles du passé, selon votre expression, mais pleines d'avenir. C'est quoi l'avenir? On a du mal à l'imaginer. L'avenir du pigeonnier dans nos temps modernes, c'est quoi?
Alors, j'ose effectivement penser qu'il y a un avenir pour ces pigeonniers, parce que d'abord, beaucoup de collectivités ou de conseils départementaux vont rénover ces pigeonniers pour le patrimoine, hein, pour le
oui, c'est ça, c'est un objet patrimonial aujourd'hui.
C'est un objet patrimonial.
La colombine n'est plus, quoique.
Mais peut-être, ouais, vu l'évolution.
Vu l'évolution de l'agriculture, on pourrait peut-être revenir à l'usage de la colombine. Ça pourrait éviter des intrants et des pesticides. Mais c'est pas que ça pour vous, l'avenir. Hein.
Non, l'avenir, bon, il y a le côté patrimonial, bien évidemment. Ensuite, certains propriétaires transforment les pigeonniers existants en pièces à vivre. Ça peut être, notamment, j'ai vu dans l'Hérault, un graphiste qui avait transformé un pigeonnier en atelier. Ça peut être un bureau, ça peut être une bibliothèque. Mais de plus en plus se développe ce qu'on appelle les pigeonniers contraceptifs.
Les pigeonniers
contraceptifs.
Ça alors.
Qui servent à réguler le flux des pigeons. En fait, dans les communes, certaines communes vont transformer un pigeonnier ancien. C'est le cas notamment à Rieum, et qui pour fixer les colonies de pigeons à un endroit pour éviter que la fiente
se propage
ouais, sur toute la commune. Et ensuite, le principe, c'est que on permet aux pigeons, aux couples de pigeons, d'avoir une couvée par an. Et les autres pontes, un employé municipal ou d'une association va venir secouer les œufs.
On tue le pigeon dans l'œuf, en fait.
Pour éviter la fécondation.
D'accord.
Et donc, les pigeons restent fixes dans cet édifice. Ne vont pas partout dans toute la ville, et ça permet de réguler à terme les naissances.
On détourne le pigeonnier de sa vocation d'accueil des pigeons, de portée de pigeons, pour en faire toujours un lieu d'accueil, mais qu'on limite.
Tout à fait.
Pour éviter les nuisances. Mais vous, l'amoureuse des pigeonniers, vous, l'amoureuse des pigeons probablement aussi, comment est-ce que vous percevez ça?
Mais je le perçois très bien, parce que c'est un système qui... conforte le pigeon dans son bien-être, qui ne va pas, parce qu'il y a aussi des systèmes plus barbares, notamment les pics anti-pigeons qu'on peut mettre sur les édifices, qui blessent le pigeon. Donc ça permet à la fois de répondre aux attentes de la population ou des habitants qui en ont marre parfois de ces afflux de pigeons, de respecter l'animal et de sauver aussi des édifices qui seraient voués à la destruction. Certaines communes, par contre, n'ont pas la chance d'avoir un pigeonnier ancien et vont construire des pigeonniers en bois. C'est le cas à Millau, c'est le cas à Bordeaux.
À vocation contraceptive.
Tout à fait.
Ah ça alors. Merci beaucoup Diane Masclary pour cette présentation de cette déambulation que vous nous proposez à la découverte des pigeonniers de nos terroirs. Vous l'avez vu, elle a la passion du pigeon, elle a la passion du pigeonnier. Ça tombe bien, cette 18e édition des rendez-vous au jardin s'intitule La transmission des savoirs. C'est du 4 au 6 juin un peu partout en Occitanie. Et pour cette édition, 215 parcs et jardins ouvrent leurs portes au public, dont 39 jardins remarquables. Vous retrouverez tous les jardins ouverts sur le site www.rdvj-occitanie2021.fr. Et puis pour aller rencontrer mon invité Diane Masclary, ça se passe au château de Longage. L'entrée gratuite, hein?
Tout à fait, l'entrée est gratuite. Je précise que s'il y a des averses, le public se rassure, nous allons activer le plan B, si je puis dire, et l'exposition se passera dans des endroits couverts, et le colombier est transformé en musée du pigeonnier, avec des épis de fêtage, des boulins, des photos également.
Exposition in situ, à l'abri. Merci beaucoup Diane Masclary.
Merci à vous, au revoir.